Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Dans Partager le savoir, l'émission de Canal Académie consacrée à la langue française, je reçois aujourd'hui Sophie Lovilaslo, sous-directrice du français à la Direction générale de la coopération internationale et du développement du ministère des Affaires étrangères, et Dario Pagel, président de la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français, qui regroupe 70 000 enseignants à travers 180 associations dans le monde. Ils sont là tous les deux pour nous parler aujourd'hui de l'opération Prof en France. Sophie Lovilaslo et Dario Pagel, bonjour et bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, sous la coupole de l'Institut de France, on reçut une centaine de professeurs de français qui viennent du Brésil, du Mexique et de l'Afrique du Sud par Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et présidente de l'Institut pour l'année 2007, justement dans le cadre de cette opération Prof en France. Sophie Lovilaslo, en quoi consiste cette opération du ministère des Affaires étrangères ?
Alors il s'agit d'un tout nouveau programme. C'est quelque chose que nous avons souhaité en quelque sorte offrir aux professeurs de français du monde entier pour saluer un métier et un engagement qui sont un très beau métier puisque c'est un métier de communication et d'ouverture au service du plurilinguisme et au service de la langue française. Nous avons créé ce programme cette année pour la toute première fois en direction de trois grands pays émergents qui sont cette année le Brésil, le Mexique et l'Afrique du Sud. Et nous avons souhaité qu'à l'avenir, ce programme se consacre à chaque fois à trois grands pays émergents. L'année prochaine, nous avons déjà choisi trois nouveaux pays qui seront plutôt cette fois des pays asiatiques.
Alors, sur quels critères justement ont été choisis cette année ces trois pays ?
Ma foi, nous avons souhaité honorer sans trop tarder les grands pays émergents d'Amérique latine que sont le Brésil et le Mexique. Et en Afrique du Sud également, saluer l'intérêt de l'Afrique du Sud pour la langue française, puisque ce pays est très demandeur actuellement de formation, notamment pour ses fonctionnaires et ses diplomates. Et les professeurs de français sont très demandeurs de formation.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ce regain de la francophonie en Afrique du Sud ?
L'Afrique du Sud a très bien compris qu'elle avait un rôle majeur à jouer dans l'Afrique en général, et l'Afrique étant pour partie francophone, pour partie anglophone, elle a donc très bien compris que pour avoir un rôle majeur à l'échelle du continent africain, il fallait que ses fonctionnaires et diplomates maîtrisent les deux grandes langues de l'Afrique que sont l'anglais et le français. Et c'est ce à quoi nous l'encourageons.
On est dans une opération là, de formation Prof en France. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Tout simplement, c'est une formation en France.
Oui.
Donc, 10 jours qui sont offerts par la France à ses enseignants au moment du 14 juillet, parce que c'est un moment très fort et très symbolique au plan culturel et qu'on ne peut pas non plus bien bien enseigner la langue sans naturellement s'intéresser à la culture. Et ces professeurs de langue sont aussi des véhicules très forts de culture française. Et donc, ils viennent en France. Ils sont accueillis à Paris, mais aussi au Cavillam, à Vichy, où ils suivent une formation permanente. Ils sont immergés dans des familles françaises et dans des groupes où ils vont pouvoir bénéficier de toute l'actualisation de la pédagogie. Et donc la valorisation de leur engagement, je dirais, consiste tout simplement à les accueillir en y mettant alors là vraiment les formes les plus belles. Et donc notamment, ils seront accueillis sous la coupole de l'Académie par Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire générale de l'Institut.
Sophie Lovilaslo, vous nous avez parlé de programme Prof en France. Est-ce que c'est une opération de prestige ou un programme ? Est-ce que ça s'inscrit dans un programme un plan plus large, parce qu'à l'origine, il s'agissait d'une opération, je crois, dans un plan particulier qui était le plan triennal de formation des professeurs de français. Alors, quel est le lien avec ce plan quand il a été lancé il y a 3 ans ?
Alors, il ne s'agit pas véritablement de quelque chose qui s'inscrit dans un plan de formation de 10 000 professeurs. Nous avons au ministère des Affaires étrangères pour mission une très très belle double mission liée à la langue française. Il s'agit de faire rayonner la langue française dans les pays du Nord en termes de promotion je pourrais presque dire en termes d'exportation de notre langue et de notre culture. Et il s'agit dans les pays du Sud de faire rayonner également notre langue, mais en termes de solidarité, puisque notre langue dans les pays où elle est vecteur d'enseignement et donc le support de l'éducation y est vecteur de développement. Et il y a une troisième situation qui est plus difficile pour nous à appréhender, qui est celle des pays émergents. Que faire dans les pays émergents pour soutenir notre langue et soutenir les formateurs et les enseignants? C'était donc une réelle difficulté. Donc nous nous sommes donné un ambitieux plan de relance pour le français. Nous nous sommes donné les moyens de faire quelque chose pour les professeurs de français dans les zones développées et en développement. Et il nous restait à trouver quelque chose pour les pays émergents. C'est chose faite avec ce projet Prof en France. Nous pouvons faire quelque chose pour remercier et motiver les professeurs de français, et c'est l'intention de ce programme.
C'est une opération de prestige ou de formation ?
Les deux, bien sûr. Mais on ne peut pas imaginer qu'avec 30 professeurs, nous allons modifier la donne dans un pays aussi vaste que le Brésil ou le Mexique.
Voilà.
Mais ce que nous pouvons imaginer, c'est qu'en valorisant 30 professeurs de chacun de ces pays, nous pouvons redonner une motivation extraordinaire à toute une communauté d'enseignants de français.
L'opération Prof en France sera-t-elle reconduite l'an prochain ?
Oui, elle sera reconduite l'an prochain et les années suivantes. L'an prochain, nous avons déjà choisi 3 grands pays qui sont la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
Dario Pagel, je rappelle que la fédération que vous dirigez rassemble des dizaines de milliers d'enseignants étrangers et de professeurs de français, qu'elle a reçu le prix Louis D, justement le grand prix culturel de la fondation Louis D à l'Institut de France il y a quelques années, en 2004. Et justement, quel est le lien ou comment l'AFIPF peut aider ou participer à cette opération Prof en France ?
Sa participation concerne plutôt les activités du terrain, c'est-à-dire le programme Prof en France ayant été établi par le gouvernement français. Ensuite, dans ces 3 pays émergents, Mexique, Brésil et Afrique du Sud, par le biais de leurs ambassades, c'est par le biais, je dirais, des associations de professeurs de français de ces 3 pays que nous avons participé au programme Prof en France. Participer de quelle façon ? De la façon suivante, par le choix, par la sélection des professeurs qui sont venus, qui sont déjà à Paris en ce moment.
Alors, vous les avez déjà rencontrés. Donc, sur le plan pédagogique, Sophie Lovi-Laszlo rappelait que ses enseignants, après un court séjour à Paris, vont aller au CAVILAM pour suivre une formation de français. Mais pour vous, Dario Pagel, qu'est-ce qu'une formation idéale pour un professeur de français ? Je suppose que c'est une question que tous les membres de la FIPF se sont posées un jour ou l'autre. Mais cette question de la formation des enseignants est importante. Et c'est justement la double qualité que souhaite accorder à cette opération le ministère. Mais je pense également à toute association de professeurs de français. Alors, quelle serait cette formation idéale pour vous ?
Moi, je suis, au nom de la Fédération, je tiens à saluer cette initiative du ministère des Affaires étrangères, de toute l'équipe de la sous-direction du français, parce que c'est un premier pas, je dirais, une première réponse à mon discours de plusieurs années de fidélisation des enseignants étrangers de français. C'est en les invitant, en leur proposant une formation en France ou dans un pays francophone, bien sûr de haute expression universitaire, que nous pouvons fidéliser ces enseignants étrangers de français. Quand je parle de fidélisation, c'est justement les motiver, leur montrer, répond, oui. Le projet s'inscrit complètement dans mon discours de plusieurs années de fidélisation des enseignants de français. Une action qui a été un peu, qui est restée un peu endormie pendant certaines années, parce que moi-même je suis un produit de ce programme de fidélisation qui passe par des bourses, par des séjours en France, des séjours de courte durée et des séjours de longue durée. Parce que, comment vous dire, le séjour culturel est très important. La lecture, la culture elle peut être acquise, apprise par le biais de la lecture, mais le séjour en France est très important. Le moment du 14 juillet aussi est très représentatif dans la comment dire, dans l'imaginaire de ces enseignants. Mais un séjour de formation pédagogique est souhaitable, pas seulement souhaitable, nécessaire. Ils ont besoin de cette formation, pédagogique en France. Et je pense que je peux me permettre de lancer un appel à l'État français pour qu'il attribue des enveloppes beaucoup plus importantes à la section linguistique ou à la sous-direction du français pour que des projets de cette nature puissent être plus développés. Quand je dis plus développés, l'équipe en place au ministère a des moyens timides, modestes pour accueillir ses professeurs 3 semaines ou 4 semaines en France. Deux semaines, c'est déjà bien, c'est une motivation. Ce sont les jeunes qui viennent, ce ne sont pas les professeurs qui sont plutôt proches de la retraite. Ce sont, comme Mme Carrère-Dancos le souligne toujours, les mousquetaires de la langue française, mais ces mousquetaires doivent être, la relève doit être préparée aussi. Et ce projet prépare la relève. C'est une motivation, encouragement pour le Mexique, par exemple, où le français est en évolution dans les systèmes éducatifs et dans les universités, pas seulement dans la structure de l'enseignement, dans la structure, je dirais, française. Au Brésil, il est en évolution dans le cadre des alliances françaises et dans le cadre de la structure française de l'enseignement. Mais malheureusement, il est en recul dans le système éducatif. Là, nous avons beaucoup de choses à faire. Ce projet peut encourager. Je regrette de ne pas avoir le temps de pouvoir m'adresser à ces 100 professeurs qui sont en France là en ce moment pour leur parler de la vie associative, pour leur parler du français, des associations, de la fédération et tout ça.
En fait, l'idéal serait, au cours de cette rencontre et de ce séjour en France, effectivement, de créer un lien aussi un petit peu communautaire. Enfin, le terme est trop fort, mais entre ces professeurs, pour relancer et redynamiser leurs efforts après dans leur propre pays, puis aussi en lien avec les autres professeurs des autres pays qu'ils ont rencontrés, j'imagine.
Oui, avec les associations locales, ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien fait entre la représentation de la coopération française et les associations, soit au Mexique, en Afrique du Sud, au Brésil. Je dirais, mais moi, je n'ai pas le temps de pouvoir leur adresser. Donc, ça, c'est à développer pour la prochaine fois. Mais je relance cet appel au chef d'État français que s'il souhaite que la langue française soit encore valorisée dans les zones francophones, mais surtout dans les zones non francophones, dans les pays émergents et même les pays moins expressifs, il faut que la direction de la coopération culturelle et linguistique reçoivent une enveloppe importante pour développer. Dans le passé, nous avions ça. Si aujourd'hui, c'est toujours l'argument valable que j'exprime, si aujourd'hui je suis un militant et un amoureux de cette langue, c'est parce que dans le passé, le gouvernement a investi.
Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut espérer aussi comme retombée de ce stage ?
Pour inventer ce stage, et j'abonde dans le sens de Dario Pagel a mille fois raison lorsqu'il dit que nous ne mettons pas assez de moyens. Nous mettons tous les moyens que nous pouvons, bien évidemment. Mais pourquoi nous avons inventé ce stage ? C'est parce que dans le monde entier, la demande de français augmente et le nombre de locuteurs français augmente. Il y a 10 millions de plus de francophones aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 10 ans.
Ça représente à peu près 180 millions, non, c'est ça, de francophones. Hein, c'est juste donner un ordre de grandeur.
La demande de français, de langue française augmente. Cependant, il y a des pays où la relève des générations des enseignants de langue est très difficile. Et le métier d'enseignant de langue lui-même est un métier qui, malheureusement, tout comme le métier d'enseignant, a un problème de statut, de prestige, de devenir et même parfois de niveau de vie et de rémunération. Et donc nous avons des pays entiers dans lesquels la situation d'enseignant de langue ou d'enseignant de français est devenue un statut extrêmement difficile. Donc notre idée, notre espoir, c'est de conforter un petit peu ce statut et le devenir de ce métier dans les zones où c'est véritablement stratégique pour l'avenir de notre langue.
C'est
la raison pour laquelle nous nous concentrons sur quelques pays pour faire un programme qui a une valeur symbolique. Évidemment, ceci ne résume pas notre action pour ces pays. Nous avons dans chacun des pays du monde un plan pour l'enseignement français. Et dans chacun des pays du monde, il y a un programme de formation initiale et permanente qui est négocié avec les autorités locales pour les professeurs de français.
Alors, Dario Pagel, sur le terrain, quels sont les manques que vous avez pu constater au niveau de la formation de ces enseignants ? De quoi ont-ils besoin ?
Ils ont besoin d'une formation, d'un recyclage linguistique, la langue. Parce que dans leur formation universitaire, la formation professionnelle. Ils arrivent aujourd'hui dans beaucoup de pays avec un niveau débutant à l'université, ce qui rend notre travail de valorisation de l'enseignement du français et promotion, augmenter l'espace du français dans le système éducatif, parce que nous avons aujourd'hui une main-d'œuvre pas toujours bien formée au niveau linguistique. Pour la didactique aussi, il faut une formation. Je dirais que c'est la formation linguistique, expression, français, langue de communication. Parce qu'on a souvent à savoir, les professeurs, si je prends quelques exemples, la Chine par exemple, ou même dans certaines structures universitaires d'Amérique latine, c'est un savoir passif et pas un savoir actif.
C'est une langue dans un registre particulier qu'ils réclament, par exemple, je ne sais pas moi, le français des affaires, le français du tourisme, ou c'est la langue française
Dans sa totalité.
Voilà.
C'est la langue française dans sa totalité. Et nous avons encore, cette génération est plutôt partante, mais nous vivons encore une période où le français est valorisé par sa difficulté. Voilà.
Ah,
et ça, nous avons des difficultés à changer cette image parce que les enseignants, pour l'autre, Sophie Louvi parlait du statut social de l'enseignant qui est aujourd'hui vraiment
fragile.
Fragile parce que l'enseignant du français dans les différents systèmes éducatifs n'a plus le même statut social d'autrefois. Quand je parle du français, mais ça concerne aussi d'autres langues et d'autres disciplines. Et il ne garde plus le même respect, je pense, de ses élèves. Et ni de ses collègues enseignants d'autres matières. Nous avons cette difficulté dans le quotidien, sur le terrain. Le respect de l'hiérarchie scolaire, même ministérielle parfois. Cette difficulté, elle est réelle. Donc, nous ne pouvons pas dissocier politique et développement du français de ce questionnement. Le statut social du professeur, il est très mal rémunéré, il cherche à faire autre chose. Donc, il faut valoriser sa formation linguistique, il ne faut plus que les enseignants universitaires souvent valorisent la langue française par ses difficultés, autrement dit par ses exceptions.
D'accord.
On dit toujours le français est une belle langue mais difficile. Avec cet argument, je ne vais pas très loin. Alors on dit que l'anglais est facile, non, les difficultés sont les mêmes.
Juste pour terminer, de compléter ce que Dario vient de dire sur l'image de la langue française, il a mille fois raison. Nous ne pouvons pas exporter notre langue avec une image de difficulté et une image rebutante. Vraiment, le message que nous efforçons de faire passer aux enseignants de langue et le soutien aux enseignants de français est notre cœur de métier, c'est aborder l'enseignement de la langue comme un encouragement à la communication. La langue est une chose vivante, elle est un instrument de communication, ce n'est pas une chose sacrée, ce n'est pas une chose difficile. Donc nous nous efforçons vraiment de faire que les enseignants de langue récompensent les progrès et félicitent toujours et permettent d'avancer. Dès que l'on parle quelques phrases, on parle français. C'est vraiment ce message-là que nous essayons de favoriser.
Alors, quels sont les nouveaux supports utilisés par exemple par ces enseignants ? Est-ce que des outils comme Internet peuvent justement, j'imagine, répondre et faire écho à toute cette politique. Est-ce que à l'issue de leur séjour en France ou dans le cadre de leur séjour en France, est-ce qu'il est prévu quelque chose, par exemple, sur l'utilisation des outils Internet, des nouvelles technologies, etc.
Bien sûr. Alors, je suis venue avec quelques supports de communication que nous produisons. Par exemple, des DVD, des choses ludo-éducatives. Il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les publics. Le tout dernier que nous ayons produit, c'est celui-ci, La belle histoire de Luc le Lièvre. Donc, c'est sur un conte de Léopold Sédar Senghor. Et il y a à chaque fois, dans chacune de nos productions qui sont destinées aux enseignants, le livre disque et puis le livret pédagogique, généralement réalisé par le Cavillam de Vichy, comme c'est le cas encore pour celui-ci. Et puis, nous en avons une cinquantaine dans notre catalogue qui sont que l'on peut commander par le site internet du ministère pour les professeurs du monde entier. Mais nous produisons également des choses comme ce lexique du sport pour les Jeux olympiques en différentes langues et beaucoup d'autres outils. Nous avons également naturellement des outils en ligne, des portails internet. Nous préparons actuellement avec le CIEP et le CNED un important programme d'enseignement en ligne et à distance pour les professeurs de français qui sera là destinée aux pratiques de classe. C'est les pratiques de classe pour les professeurs de français, donc les compétences et les savoir-faire pour construire une séquence pédagogique, pour animer
Alors,
un groupe, pour faire parler.
Quels seront les auteurs de ces séquences ? Vous faites appel à des associations de professeurs ?
Non, tout ceci est déjà réalisé par le CNED et le CIEP, le Centre international d'études pédagogiques.
Le CIEP, il a différentes spécialités, différents pôles,
oui.
Y compris le pôle de la langue française, avec qui nous sommes, nous, fédération, étroitement en contact aussi. D'ailleurs, nous avons organisé notre dernier colloque avec le pôle de la langue française du CIEP. Et ce sont eux qui préparent, mais ils ont une équipe qui a une large expérience avec l'étranger,
oui.
Donc ils connaissent bien les besoins de formation des professeurs dans les différentes régions du monde, oui.
Et est-ce qu'il y a une aide matérielle apportée justement à ces associations locales de professeurs de français pour avoir accès justement à ces outils Internet ? On peut supposer que toutes les associations ne bénéficient pas d'ordinateurs ou pas en nombre suffisant. Sophie Lovie-Laszlo.
Les associations de professeurs de français, les professeurs de français dans les systèmes éducatifs nationaux sont véritablement le public cible que nous visons. Alors nous les atteignons par deux moyens. La Fédération internationale des professeurs de français qui fédère ces associations, mais aussi directement par nos postes culturels et de coopération sur le terrain.
Mais est-ce qu'il y a une aide précise, matérielle ?
Bien entendu, ils sont subventionnés par nos postes.
Mm-hmm.
Donc il y a une subvention annuelle qui est versée à la plupart de ces associations. Il y a également, ce que je vous disais tout à l'heure, un plan de formation qui est élaboré avec les autorités éducatives locales. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent toutes nos initiatives. Peut-être encore un mot en matière de nouvelles technologies. C'est véritablement l'axe que nous avons tenté de privilégier durant les deux dernières années à la sous-direction du français. Non pas parce que cela peut remplacer tout le reste, pas du tout, mais simplement parce que nous avons le sentiment qu'avec les nouvelles technologies, et je crois que Canal Academy en est la preuve vivante, nous pouvons vraiment faire tomber les murs de la classe. Les enseignants sont un public qui parfois se sent un peu isolé, et avec Internet, on peut véritablement faire qu'une communauté se sente telle et que les enseignants se sentent moins seuls. Il y a tout ce qui est jumelage électronique, tout ce qui permet de travailler avec d'autres salles de classe ailleurs. Il y a des portails, il y a des ressources en ligne. Nous exportons des ressources francophones ainsi à destination de tous les professeurs de français en Hongrie.
Mmh.
Donc c'est une expérience pilote, on va pouvoir le faire ailleurs j'espère. Et nous travaillons actuellement à beaucoup, beaucoup d'autres projets de ce type.
Les nouvelles technologies, effectivement, ont fait leur entrée depuis plusieurs années déjà quand même dans les systèmes éducatifs. Mais évidemment, tous les pays ne peuvent pas bénéficier, n'ont pas toujours les moyens d'utiliser ces nouvelles technologies. La FIPF est effectivement aussi très performante avec l'usage des nouvelles technologies. Vous avez un site,
oui,
extraordinaire, vous mettez des séquences, oui, pédagogiques en ligne, il y a des forums, ça sert
tout
également de relais à la fédération, parce,
oui,
que fédérer 70 000 enseignants, c'est énorme. Donc c'est un outil formidable. Effectivement, on voit que c'est plus que dans l'air du temps. C'est une condition sine qua non de la survie de la langue française,
oui,
aussi aujourd'hui, pour faire tomber, comme disait Madame Sophie Lovie-Laszlo, les barrières et les frontières de réel.
Tout à fait, parce que l'Internet a changé, a changé le comportement en salle de classe de langue étrangère, pas seulement de la langue française, et le français en tire bien sûr ses avantages parce qu'il est plus facilement accessible aujourd'hui, surtout la langue orale. La langue orale qui avant était plutôt d'un accès difficile.
Mmh.
Ma génération a commencé à connaître progressivement les nouvelles technologies à l'époque. Aujourd'hui, je dirais les technologies. Mais aujourd'hui, les étudiants ont effectivement cette facilité parce que, quittant l'école, même si à l'école, ils n'ont pas toujours accès à Internet, à la maison, souvent, ils ont accès à Internet. Sauf qu'il faut bien les orienter. Il y a le problème de la question pédagogique. De l'usage de l'Internet en faveur de la langue française. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'accès et il faut peut-être, je trouve, mais ça c'est une question avec nos associations, une stratégie, je dirais, de travail à développer pour que Internet facilite davantage l'accès à la langue française, un accès écrit et en même temps un accès oral aussi. Nous sommes effectivement dans notre site francparler.org répond à la formation, aux besoins de formation de la communauté mondiale de professeurs de français. Et vous savez, nous avons plus de 130 000 visiteurs par mois, ce qui montre effectivement ce besoin et l'intérêt. Pas seulement le besoin, mais l'intérêt aussi. L'autre site, le site fipf.org, c'est le site plutôt administratif, je dirais, de la fédération, associatif de la fédération, avec des informations concernant nos associations.
Toute la vie de l'association,
toute la vie associative,
les rencontres.
Dans la mesure du possible, dans la mesure de moyens aussi, bien sûr, oui.
Sophie Lovilaslo, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, juste encore un mot sur les nouvelles technologies. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'au fond, cela permet aussi, par le vecteur qui porte nos langues, de moderniser l'image même de notre langue. Mm-hmm. Or, notre langue a un problème d'image. C'est ce que disait tout à l'heure Dario Pagel. Elle est vue comme difficile. Elle est vue aussi parfois, pardonnez le mot, comme un peu ringarde. Mm-hmm. Et je me permettrai d'ajouter ce que je peux dire en tant que femme et que Dario peut peut-être moins dire, qu'elle est vue comme trop féminine. Elle est vue comme trop féminine. Ce sont beaucoup de jeunes filles qui apprennent le français à l'étranger. Et nous avons besoin que notre image soit un peu plus young et un peu moins yin. C'est pourquoi nous allons faire à la rentrée en septembre une campagne sur le rugby et la langue française.
Ah, bah écoutez.
Je suis. Est-ce que je peux.
Allez-y, monsieur.
Oui, je suis entièrement d'accord avec Sophie Lovy quand elle parle de l'image féminine de la langue française. Ça, c'est un élément qui est un peu généralisé dans le monde. Langue de femme, langue de fille. Parce que dans le passé, toute la monarchie faisait des études en français. Il y a donc toute l'histoire, il faut voir un peu l'histoire. Il y a cette image féminine. Après, on a donné à cette langue, à notre langue française, l'image de langue de salon, c'est-à-dire pas langue de travail. Et aujourd'hui, avec le ministère, la FIPF et tous nos partenaires, nous essayons de couper cette image d'une époque. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre siècle, langue de communication, langue de travail, etc. D'où la difficulté souvent d'argumenter auprès des parents, parce que dans les écoles, ce sont les parents qui décident la langue. Qui font le choix de la langue pour leurs enfants. Donc, il faut présenter une image moderne. Nous avons, le ministère de la sous-direction a préparé un argumentaire qui s'adresse aux parents et aux directeurs des écoles. Nous, avec l'association, avec l'AMOPA, nous sommes en train de développer aussi une enquête très mondiale, mais une enquête de terrain, je dirais.
L'AMOPA, c'est
l'association de membres de l'Ordre des Palmes Académiques.
Des Palmes Académiques.
Oui, qui s'intéresse un peu à la modernisation de la langue, de l'image de la langue française. Oui. Et cet aspect, j'ajouterai un élément linguistique à l'image féminine du français. C'est lié dans beaucoup de représentations, je dis bien, dans l'imaginaire de beaucoup de gens à cause de sa prosodie. Un peu, ça aussi, l'originalité, cette belle prosodie de la langue française, jugée toujours belle, elle est belle, oui, d'accord, mais d'autres prosodies sont belles aussi. Cette prosodie de la langue française, comme elle n'a pas d'accent lexical, comme l'espagnol, le portugais, l'anglais, elle a une prosodie toute particulière, avec un rythme particulier, ce qui, dans l'imaginaire, donne cette image féminine du français, ce qui est complètement faux, rien de vrai.
Alors, merci à tous les deux d'avoir évoqué justement ces problèmes d'image de la langue française sur laquelle les associations, le ministère des Affaires étrangères, tous les amoureux de la langue française, effectivement, souhaitent changer. Merci à tous les deux. Retrouvez le discours d'Hélène Carrère-Dancos et les nombreuses émissions réalisées depuis 2 ans en partenariat avec la FIPF en ligne sur Canal Académie. Merci Sophie Lovilaslo et Dario Pagel pour cette interview.